grand dialogue
sigi ka foba
e do woni wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chaîne Libero
halud mawni
chaîne Libero sigi ka foba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue. Ce lundi 24 novembre 2014, nous parlons de la place de la religion dans le processus de paix, une place qui est essentielle pour la paix dans le nord du Mali. Musulmans et chrétiens peuvent jouer un rôle important dans la promotion de la paix en stimulant le dialogue sur la tolérance religieuse. Alors, comment la religion peut contribuer à asseoir la paix et qu'est-ce que les religieux peuvent proposer ? Pour accélérer ce processus, nous en parlons avec le ministre des Affaires religieuses et du culte. Monsieur le ministre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Avec Eladj Sidi Kounaké de l'AMIPUI. Monsieur Kounaké, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Jean de Dieu Dambélé de l'Église épiscopale, bien sûr. Pardon pour la prononciation. Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, je suis Sira Batili au micro. Nouhoum Djiré est à la technique. Studio Tamani. Alors, bienvenue à vous. Dans l'histoire du Mali, la religion a toujours été un rôle, a joué toujours un rôle de médiation dans les conflits et sa place est primordiale dans la réconciliation. Premier volet de ce débat, l'historique de la place de la religion dans la paix. Alors, est-ce que la religion a déjà été source d'apaisement au Mali? Je commence par Eladj.
Merci. Assalamu alaikum à l'ensemble de ceux qui nous écoutent. C'est dans le salam, il y a la paix. La religion a joué un très grand rôle dans la recherche de la paix au Mali. Nous nous souvenons dans l'histoire de la religion musulmane, de toute cette grande histoire, parce que le pays est un pays de grande croyance depuis les temps de Kankou Moussa, les temps de Sékou Amadou, de El Hadj Omar, jusqu'au temps actuel, la religion a sa grande place. Vous n'avez pas un chef-lieu de région ou un village au Mali où vous ne trouvez un érudit vivant ou mort qui soit présent. Tout cela, c'est pour la foi. Et cette foi, la foi en Dieu, c'est-à-dire en l'amour, qui est en tout le monde, qui est pour tout le monde. Et l'AMIPUI, surtout, a joué un rôle, un grand rôle, dans l'apaisement. L'AMIPUI a joué un grand rôle dans l'apaisement au Mali, depuis le temps des indépendances, jusqu'à maintenant d'ailleurs, quand il y a même eu des couacs ou des conflits entre certaines tendances, l'AMIPUI a été créé justement pour faire la paix. Et l'AMIPUI a réussi là, entre les religieux. Et l'AMIPUI a collaboré beaucoup avec les autres religions pour une unité de vue pour la paix au Mali. C'est tous les plans politiques, le plan social, le plan même de la gouvernance, où à chaque fois qu'il y a des problèmes, l'AMIPUI a été invité à donner son point de vue, à intervenir, et l'AMIPUI a été écouté, beaucoup écouté, et cela nous a valu la paix que nous sommes en train de vivre en ce moment au Mali.
D'accord. Monsieur Jean de Dieu Dambélé, vous êtes de l'Église épiscopale. En quoi est-ce que la religion a déjà été source d'apaisement au Mali?
Merci. D'abord, je me présente, c'est Jean de Dieu Dambélé, et je suis membre du Conseil national du laïcat catholique du Mali. Donc, il s'agit de l'Église catholique et non pas l'Église épiscopalienne.
Autant pour nous.
Parce qu'il y a des églises qui s'appellent comme ça.
D'accord. L'Église catholique.
L'Église catholique.
D'accord. Allez-y.
Et à ma connaissance, le christianisme est arrivé au Mali il y a de cela 100 ans, 100 ans et plus, 125 ans. Et l'Église a eu des adeptes. Ils ont eu des chrétiens dans toutes les communautés, dans toutes les familles, dans toutes les régions. Et à ma connaissance, il n'y a pas encore eu d'affrontement direct entre les communautés musulmanes qui pourtant étaient déjà là depuis des siècles et cette nouvelle foi qui est arrivée au Mali. Donc ça, c'est un premier aspect pour dire que la présence de l'Église catholique n'a pas provoqué de guerre. Elle a cohabité et elle a été accueillie. Parce que si elle a pu avoir des adeptes, c'est qu'elle a été accueillie. Elle a été accueillie par la communauté musulmane qui était là. Elle a été accueillie par ceux qui suivent le chemin de nos ancêtres et qui ont accepté que cette nouvelle foi s'installe. Et comme le disait notre patriarche, c'est un peuple qui est profondément croyant. Et l'Église catholique, dès qu'elle est arrivée, elle a commencé à s'intéresser à tout ce qui est social, que ce soit les écoles, que ce soit les hôpitaux, et que ce soit tout ce qui est lié au développement, de manière à rendre une certaine dignité à l'homme malien. Et cela, l'Église l'a toujours fait sans faire discrimination. D'accord. Les actions de l'Église sont pour tous les Maliens.
Alors, nous avons en ligne M. le ministre des Affaires religieuses et du culte, M. Tcherno Amadou Oumar Ass Diallo, par téléphone. M. le ministre, vous avez entendu les autres, on va vous poser la même question. Est-ce que la religion a déjà été une source d'apaisement au Mali?
Alors, je ne sais pas, M. Sirah, je me dis, la question elle est tellement brute.
Brute, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que je ne vois pas la question en termes d'apaisement, parce que ça voudrait dire qu'il y a eu des problèmes. Et que, non, moi je pense plutôt, je dirais, quel a été le rôle de la religion dans la stabilité ou la tranquillité, ou dans l'ancrage, voilà.
Monsieur le ministre, vous le permettez, puisqu'on rappelle l'historique ici. Oui. Je crois qu'il est important de rappeler d'abord ce que la religion a fait, et puis on va venir au rôle après.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, c'est une manière de voir. Alors, mais ce que je veux vous dire simplement, lorsque ce qui a été évoqué par mes deux prédécesseurs, mes aînés, je parle sous le contrôle de l'imam Diko et puis d'autres érudits, c'est que je me dis, les religions, moi je prends les deux, l'islam et le christianisme, ont d'abord vécu en bonne intelligence. Alors, donc, ça voudrait dire que les cœurs ont accepté les droits à la différence. Ça, c'est déjà participer et à l'apaisement. Hein? Je suis différent, mais j'accepte ces droits à la différence. Alors, au-delà de ça, quand vous écoutiez à des moments où la tension sociale, j'étais encore enfant, mais on se le rappelle, les discours tenus par El Hadj Balakalé pendant les fêtes de Saint-Sylvestre, l'adresse à la nation que le président leur offrait. Quand vous prenez le discours de Mgr Luc Sangaré, qui parlait de ce qu'est la souffrance du peuple, mais qui appelait le peuple à accepter certains moments dans son histoire, certaines situations. Alors je pense que c'est tout cela qui, des petits actes quotidiens, qui créent la paix du cœur et qui créent la paix entre voisins au-delà de l'appartenance religieuse. Alors donc, pour moi, indéniablement et de toute évidence, et de tout le temps, donc les religions sont venues d'ailleurs pour la paix. Je le dis très souvent, Jésus est mort pour la paix. Prophète de l'islam, Mohammed, c'est la même chose. Il n'a jamais attaqué, il a respecté les droits des chrétiens à la Mecque, les droits des juifs à la Médine. Alors donc, ainsi va la vie depuis le siècle des religions. Et les premiers chrétiens, et les chrétiens d'Abyssinie ont accepté les premiers musulmans quand ils avaient des problèmes à la naissance de l'islam. Alors voilà donc des éléments de paix, d'apaisement, au-delà du Mali, donc dans l'histoire des religions.
D'accord, je crois que tout le monde est d'accord sur le rôle d'apaisement de la religion dans la paix au Mali. Alors, El Hadj Konaké, on vous a entendu sur l'islam, ce que l'AMIPU a fait par rapport à cela. On a entendu M. Dembélé par rapport à ce que l'Église a fait. On se demande souvent quel est le rapport entre les religions au Mali.
Le rapport, préciser votre question, préciser la question.
Je dis, quel rapport y a-t-il aujourd'hui entre les religions au Mali, l'islam et l'Église?
C'est un rapport fraternel. Quand les problèmes nationaux se posent à une certaine dimension, les dirigeants, les leaders des religions se rencontrent. En général, et c'est dans l'histoire, au temps de Mgr Luc Sangaré et de LH Omar Lee, qui était le président de l'AMIPI, quand des problèmes politiques, des problèmes sociaux, des problèmes de communauté se posent, les deux viennent avec leurs collaborateurs à la grande mosquée et ils réfléchissent sur l'objectif de faire l'équilibre et la paix. Depuis ce temps, c'était une union sacrée des religieux qui s'occupe de tous les problèmes nationaux d'une certaine gravité. Et on a toujours trouvé la solution et ça a permis de faire l'équilibre et l'apaisement.
Ah, d'accord, Monsieur Jean de Dieu Dambélé de l'Église catholique. Quel rapport existe-t-il entre l'Église et les autres religions?
Je pense que, au risque de répéter, je pense que ce que l'aîné vient de dire, je pense que c'est ce que nous avons toujours observé, ces rencontres, ces dialogues, dans la différence bien entendu, mais toujours la recherche du bien commun, le bien du Mali. Et je pense que les religions, les leaders ont toujours fonctionné et travaillé dans ce sens.
D'accord. Monsieur le ministre, quel est le jugement que vous portez sur le rapport entre les religions au Mali, l'islam et le christianisme?
Ben écoute, c'est des plus cordiaux, hein, en fait. Hein. Moi, vous savez, généralement, je dis aux uns aux autres, lorsqu'on ne décline pas son identité, il est difficile dans notre pays de se dire il est musulman ou chrétien. C'est cette appartenance culturelle. Hein, et ça, c'est déjà parce que nous sommes un État-nation. Alors, mais au-delà de ça, alors quand vous dites que dans la maison, il peut y avoir le beau-père, le gendre, la belle-sœur, la belle-mère, chrétienne ou musulmane, et qu'au-delà de ça, les choses bougent, et que donc c'est le même parallèle religieux, alors je me dis qu'en réalité, les rapports sont les plus estimables, les plus souhaités. Et aussi, puisque, comme je l'ai dit, chacune des religions monothéistes enseigne la paix, enseigne l'amour de l'autre. Alors donc, cela fait que, heureusement, Dieu merci, notre pays voilà, peut se sentir fier, hein, d'avoir une bonne relation. Et vous avez d'ailleurs un comité, je crois, tripartite d'interdiscussion entre l'Église chrétienne, catholique, protestante et puis le Haut Conseil islamique. Alors, ce qui montre à toute évidence la bonne enfance de l'atmosphère. Voilà.
Alors, merci, monsieur le ministre. Alors, monsieur Sidi Konaké de l'AMIPI, les extrémistes qui ont envahi le nord du Mali, est-ce qu'on peut les considérer aujourd'hui comme des religieux?
Vous savez, ce qui donne naissance à l'extrémisme, c'est le manque de citoyenneté. Les extrémistes ont compris qu'il ne faudrait pas passer par les voies traditionnelles pour prêcher. Quand vous voulez parler d'amour, de paix, d'équilibre, de foi, d'humilité à un homme, ce n'est pas en prenant le couteau, la hache, le fusil ou le pistolet. Au sein de tout homme, il y a une conscience, il y a un degré d'amour qui perçoit le verbe de la prêche, le verbe de l'humilité. Quand vous voyez l'homme le plus criminel, le plus mauvais, le plus intraitable, vous voyez en lui, il y a quelque chose en lui. Il y a cette divinité de vie qui est en lui, qui est cachée dans sa conscience. La religion appelle à cela pour que vous ayez la foi. Et cette foi, vous la fixez dans l'amour de l'autre. Vous cherchez la foi et vous ne pouvez l'avoir qu'en croyant en Dieu, qu'en croyant en un seul Dieu. Vous savez que vous êtes, donc votre créateur est. Vous savez que vous aimez, donc vous êtes aimé. Alors, votre amour, vous devrez le transmettre, le donner. Sans payer, sans rémunération, parce que vous vibrez de ça. Tout être humain vibre d'amour.
D'accord, les autres invités vont réagir juste après ces quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani attendent vos réactions sur les informations qui vous sont proposées. Le grand dialogue de ce lundi rappelle donc la place de la religion dans la paix. Nous en parlons avec le ministre des Affaires religieuses du culte, Tcherno Amadou Oumar As Diallo, qui est en ligne, El Hadj Sidi Konaké de l'AMIPU et Jean de Dieu Dambélé de l'Église catholique. Alors, le deuxième axe porte sur la contribution de la religion, mais avant d'y venir, je voudrais faire réaliser Monsieur Dambélé de l'Église catholique par rapport aux djihadistes, la religion qui est connue comme vecteur de paix et de dialogue. Quel dialogue instauré avec ces djihadistes?
Merci. D'abord, je pense qu'il est important de savoir que si on dit djihadiste, c'est un mot qui a son sens. Mais à mon avis, ce que nous vivons dans notre pays actuellement, il s'agit d'une agression. Et il s'agit de chercher la porte d'entrée pour atteindre notre nation. Et comme nous l'avons dit tantôt, le fait que le peuple malien, le fait que le Malien est profondément croyant, la stratégie est de passer par la religion. Parce que c'est l'élément sur lequel tous les Maliens sont d'accord. Tous les Maliens ont foi en Dieu, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit ceux de la religion traditionnelle. Et donc, stratégiquement, il faut atteindre les Maliens dans leur cœur profond. Donc moi, je l'exprime comme ça. Et donc pour moi, il ne s'agit pas d'un extrémisme religieux, mais il s'agit d'une stratégie d'atteindre un objectif à travers l'élément qui est le plus fondamental pour la société.
Donc on se cache derrière la religion.
Tout à fait.
D'accord. Monsieur le ministre,
oui.
Quel dialogue faudrait-il instaurer avec ces djihadistes qui sont au nord?
Mais vous savez, en réalité, c'est difficile d'instaurer un dialogue entre le tenant de la violence et celui qui prône la paix. C'est deux ans, c'est une antinomie. Alors, mais ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que ce n'est pas des djihadistes qui sont morts, c'est des islamistes. C'est deux hommes et des femmes qui ont une vision politique, qui s'appuient sur une religion pour l'exploiter à cela. C'est comme quand on parle de capitalisme, qui s'appuie sur le capital pour aller donc dans une vision politique idéologique. Une religion, ça a été dit par mon tonton, qui dit « Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous » ne peut pas être une religion de violence. Quand le prophète de l'islam nous dit, paix sur lui, « Respectez tous les prophètes jusqu'à moi, Jésus, Moussa et autres, respectez les livres religieux, Zabour, Taurat, Coran, et plutôt Évangile, Injil et le Coran, comme le Coran, ne dites jamais que je suis supérieur à un prophète. » Alors donc nous avons des éléments de respect des autres religions monothéistes et du droit à la différence. Dans une famille musulmane, vous avez un nom Issa, vous avez un nom Moussa, vous avez un nom Suleiman. Alors, donc, cette religion, elle est ouverte. On ne peut pas couper des mains pour cela, lapider des mains au nom de cette religion. Cela n'y est pas. Et le terme djihadiste, je crois qu'il faudrait qu'en communication, on corrige. C'est de l'extrémisme. Le djihad est fini avec le prophète de l'islam. Et le djihad n'a jamais été contre des musulmans. Nous sommes un peuple musulman. Le djihad n'a jamais été contre des chrétiens de l'époque du prophète parce qu'il a abrité des chrétiens. Les coptes venaient fêter dans sa mosquée à Médine. Et il a été dit, laissez les gens du livre et de l'écriture, car leur comportement me plaît. On nous dit, il nous est interdit même de porter atteinte à ceux qui ne croient même pas en Dieu, les mécréants. Car en les touchant, vous insulterez, ils vont insulter votre Dieu parce que vous avez touché à leur Dieu. Et donc, pour vous dire qu'en réalité, ce que nous voyons aujourd'hui, ce dialogue, il peut se faire dans la logique quand nous disons qu'il faut faire l'effort d'aller à l'autre. Lorsqu'on vous chauffera juste la joue droite, donnez la joue gauche. Évidemment, on peut aller avec cette logique parce que le plus fort pardonne. Et le prophète de l'islam a dit, le plus fort n'est pas celui qui se met en colère et qui sait battre l'autre, mais c'est celui qui sait pardonner et accepter. Alors donc, cela fait que pour l'État malien, pour la nation, nous avons le devoir, l'obligation d'aller au pardon, l'obligation d'aller au dialogue, mais faites une différence, ce n'est pas des djihadistes, enlevez cette connotation, c'est des tenants de la terreur.
D'accord.
On ne peut pas convertir des musulmans, des religieux, un peuple croyant n'est pas déjà converti. Voilà.
Deuxième axe de ce débat, c'est la contribution de la religion dans la consolidation de la paix. Alors, je me tourne vers Eladj Sidi Konaké de l'AMIPUI. Comment la religion peut-elle, dans le contexte malien, contribuer à asseoir la paix?
Vous savez, il y a déjà un ancrage des religieux et des responsables des différents régimes, des différents gouvernements. À chaque fois qu'un problème se pose, le religieux a sa place. Il conjugue beaucoup le verbe de la paix, de l'équilibre et de l'humilité, et surtout, il combat tout ce qui s'appelle injustice, violence, tout ce qui peut offenser l'autre. Donc l'ancrage de la religion, c'est automatique. Comme nous avons dit tout de suite, on peut dire qu'il n'y a pas un Malien non-croyant. Tous les Maliens croient. Comme vous dites, il y a le pourcentage des musulmans, le pourcentage des chrétiens et le pourcentage des animistes. Chacun a foi en quelque chose. Et la foi vous dirige toujours vers tout ce qui est équilibre et paix, adoration et foi. Donc, l'ancrage des religieux est demandé par tous les régimes, parce que des musulmans ou des chrétiens qui sont aux affaires à chaque fois. Entre les responsables, les leaders, les conseils sont là, les rencontres sont là, et tout ce qui a comme implication dans les actions de négociation, de facilitation, le religieux est prêt. Les religieux, je vous l'ai dit au début, les religieux sont prêts. Quand je vous dis que nous avons une union sacrée des religieux, l'union sacrée, c'est des chrétiens et des musulmans. Cette union sacrée est là. Quand les problèmes se posent, c'est à la grande mosquée qu'on se rencontre, ou au Haut Conseil islamique, on pose le problème, on discute, on voit l'implication nécessaire et on contacte les dirigeants, les responsables, qui sont très bienveillants d'ailleurs, bien accueillants. Et les échanges finissent toujours par trouver la solution et atteindre les objectifs désirés.
Alors, Jean de Dieu Dambélé de l'Église catholique, sur quoi la religion peut se baser pour garantir la paix?
Pour garantir la paix, en tout cas pour nous, chrétiens catholiques, c'est d'abord aller aux sources de notre foi. Chaque chrétien doit redécouvrir les fondements. Parce qu'on peut parler de religion, c'est institutionnel. Mais chaque personne qui se réclame être chrétien ou qui se réclame être musulman doit aller puiser dans les richesses fondamentaux de la religion pour retrouver qu'est-ce que cette religion est pour lui. Est-ce que c'est un vernis? On se dit je suis chrétien parce que je vais à l'église tous les jours et quand je sors, je suis prêt à gifler le premier qui monte sur mon pied? Ou est-ce que je suis prêt à sacrifier et à me sacrifier pour cette personne parce que c'est une personne? Parce que pour nous, dans l'Église, la dignité de la personne humaine est sacrée pour nous. Et pour nous, chrétiens, cela est d'autant plus sacré que chaque être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est un élément fondamental pour nous. On n'a pas dit chaque chrétien, on a dit chaque être humain est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc chaque chose que tu portes, chaque acte que tu portes pour un autre, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie, tu l'as fait à Dieu. Et donc c'est cet enseignement fondamental, ce trésor fondamental qui guide la vie de tout chrétien pour nous par rapport à sa vie quotidienne, soit professionnelle, soit familiale. C'est ça qui le guide. Chaque fois, ce que je fais, est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse? Et là, nous le retrouvons dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures nous enseignent ce que Dieu a voulu donner à l'humanité.
Bien évidemment. Alors, Monsieur le ministre des Affaires religieuses, pour la réconciliation et la paix, il faut nécessairement le pardon. Vous l'avez rappelé dans vos propos tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Maliens ont la foi nécessaire pour se pardonner?
Alors, je crois profondément que ce peuple sait pardonner. Ce peuple sait pardonner parce que il sait qu'il est un. Il sait qu'il est un. Quand l'autre, c'est lui. Ce peuple sait pardonner parce que ce peuple est croyant. Et lorsqu'on se rappelle ce qui est dit dans, la chronique des nombres dans la Bible. Quand tu rencontreras l'âne ou le bœuf de ton voisin en divagation, ramène-le-lui. Quand tu verras ton voisin, son âne, ployer sous le poids de la charge et qu'il se débrouille, ne te mets pas à l'écart pour l'observer, c'est ton ennemi. Non, aide-le à décharger. Alors, lorsque nous nous appuyons sur ces différentes cultures, lorsque l'on s'est dit que notre prophète, lorsqu'il a vaincu une ville comme Taïf, où on l'avait battu, paix sur lui, Mohamed, jusqu'à ce que c'est la plante des pieds colle à sa chaussure, mais qu'après sa victoire, la victoire de l'islam, dans cette ville de Taïf, il est revenu et qu'il a demandé à ses fidèles de pardonner à celui qui lui avait fait la méchanceté, certains ont refusé, lui-même prophète Mohamed, à payer ses officiers, ses fidèles, pour qu'ils libèrent, ils donnent la liberté aux gens de Taïf. Et quand Dieu lui a demandé, lorsque ces gens de Taïf lui ont fait ses blessures, « Quel veux-tu, Mohamed, que je les fasse ?» Il leur a dit « Pardonne les car, ils savent pas ce qu'ils font. » Et c'est la même phrase qui avait déjà été reprise par Jésus à la croix. « Pardonne les Seigneur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. » Et donc, lorsqu'un peuple est croyant, à 100%, chrétien, musulman ou autre, on a la foi en Dieu. Alors je crois que ce peuple sait pardonner. Il a des ressorts et il l'a démontré. Il l'a démontré. Et donc je crois que dans un tel pays, un tel peuple est fondamentalement ancré dans l'esprit de pardon. Pas de l'oubli, mais du pardon. Parce que l'une des valeurs même de ce pays qui est le mandé a été quoi? Lorsque après Kourou Kampoura, il y a eu cette entente cordiale pour partager les responsabilités, les maîtres de la parole nous le diront. C'est qu'il y a eu le crapaud qui a traversé la cour quand les gens étaient réunis. On a demandé aux oracles qu'est-ce que cela voudrait dire. Ça a été traduit. Faites comme ce crapaud, sautez sur certaines choses pour que vous puissiez créer l'entente entre vous. Alors voilà, donc je pense que historiquement, fondamentalement, un État-nation comme le Mali a été bâti sur le pardon.
Alors, Eladji Konaké, pendant l'occupation du Nord, les populations ont beaucoup subi toutes sortes d'humiliations, amputations, châtiments corporels. Et comment leur faire oublier ces tristes épisodes et leur donner confiance et leur donner foi en la religion?
Il faut d'abord présenter les condoléances à tous ceux qui sont morts, que Dieu les accueille dans sa grande miséricorde de paix.
Amen.
La question que vous posez est une question très importante. C'est là où se trouve le travail du religieux. Le religieux, c'est celui qui va donner à l'homme toute la valeur qui dépasse tous les entendements humains ou matériels qu'on lui donne. Quand vous dites à un homme, vous vous aimez plus que vous aimez qui que ce soit. Il n'y a pas d'être humain que vous aimez plus que vous-même. Et quand vous lui dites aussi, cet amour-là, vous le devez parce que vous existez. Et cette existence, c'est le Tout-Puissant qui vous donne cet amour-là. Et ce Tout-Puissant est le roi du pardon. De tout ce qui se passe sur la terre, il enseigne et il pardonne aux hommes en leur montrant les expériences pour les instruire de ce que ça veut dire l'amour de sa créature. Donc approcher les communautés et leur parler des grands accidents de l'histoire, des incompréhensions qui ont amené ces violences, qui ont amené tout ce qui est regrettable, c'est la place de la religion. Et la religion, elle seule peut faire ça.
D'accord, on va observer quelques secondes de pause.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Clin d'œil à nos 22 radios partenaires grâce à qui vous nous suivez à travers tout le Mali. C'est le Grand Dialogue avec les religieux, Eladj Sidi Konaké de l'AMIPU, Jean-Didier Dambélé de l'Église catholique et le ministre des Affaires religieuses et du culte, Tcherno Amadou Omar As Diallo, par téléphone. Et ce numéro du Grand Dialogue rappelle la place qu'occupe la religion dans le processus de paix. Comment peut-elle garantir la paix? Avec quelle approche? Nous arrivons donc au troisième et dernier volet de ce débat. Il s'agit des propositions de la religion pour accélérer le processus de paix. Et je commence par Jean de Dieu Dambélé. Qu'est-ce que la religion peut proposer aujourd'hui pour accélérer le processus de paix déjà engagé au Mali?
Pour accélérer, je ne dirais pas accélérer, pour faire advenir la paix. Parce que c'est un processus. Il faut penser les plaies. Ce n'est pas facile. Et comme j'aime bien le dire parfois, le pardon, nous pouvons pardonner. Mais la réconciliation, les hommes peuvent pardonner, mais la réconciliation, elle est fondamentalement religieuse. Et quand on veut mettre des processus en place de réconciliation, si au bout, il n'y a pas la réconciliation, ça veut dire cette dimension de la miséricorde de Dieu. Au bout du rouleau, c'est un processus inachevé. Car quelqu'un qui tue mon frère, je n'ai aucune raison de le pardonner, sinon qu'à travers une transcendance, un lien transcendant. Une valeur transcendante, c'est ça qui me permettra de dire, cette vie que j'ai perdue, ben je la récupère dans une autre dimension de ma vie. Et cette dimension de la vie, seule la religion le donne. Donc, dans le processus de réconciliation, toutes les techniques qui vont s'utiliser et qui s'utilisent sont bien, mais il va falloir qu'à un moment bien précis, nous puissions nous adresser à notre Dieu et lui demander que lui-même scelle cette réconciliation à travers sa miséricorde. Par quels moyens? On peut en discuter, mais je pense que c'est fondamental. Un processus de réconciliation qui n'a pas Dieu au bout, qui donne sa miséricorde, pour moi, c'est du bricolage.
D'accord. Monsieur le ministre, vous aviez anticipé sur le rôle des religieux dans la recherche de la paix. Nous en venons maintenant. Et selon vous, quel doit être le rôle des religieux dans cette recherche de paix?
Ben écoutez, c'est de te dire le discours de l'apaisement, le discours de ce que cherche comme finalité la foi, faire l'homme. Et que dans ce façonnement de l'homme, c'est pour le bonheur de l'homme. Et donc, il faudrait que les religieux tiennent ce langage de paix, d'amour et de réconciliation, de pardon, mais qu'ils tiennent aussi le langage de la vérité. En fait, aujourd'hui, l'homme religieux est devenu presque le meilleur, sinon le meilleur, le dernier des recours après cette déconnexion avec le monde politique et ses alliances. Alors, le Malien profondément aujourd'hui n'est emballé que par les discours religieux. Et donc, c'est tout cela l'importance et la place du religieux. Et donc, c'est de demander à nos leaders religieux de tenir le langage de la vérité, le langage de l'espoir et de l'espérance. Et aussi, dire que lorsqu'on est en religion, on cesse d'être dans le monde matériel. On cesse d'être dans l'aujourd'hui pour se projeter dans la vraie vie. En fait, le monde devient donc une sorte de mythe de la caverne. Alors donc, je pense qu'avec cela, et avec cette humilité à laquelle nous appelle notre foi, fondamentalement, nous pouvons savoir toute la prépondérance de la foi religieuse dans nos comportements quotidiens, des retenues, d'humilité, de respect des valeurs, de respect des institutions, et donc pour un Mali apaisé.
D'accord. Alors, Ella Djekounaké de l'AMIPUI, dans des situations comme ça, la religion coopère avec la politique. Est-ce que la religion peut entrer dans le champ politique? C'est permis?
Non, mais la religion est déjà dans le champ politique. C'est... Quand vous dites que vous gérez l'homme depuis sa conscience, son âme et son être de dignité, vous êtes en pleine politique. Mais quelle politique? La politique de la foi, de l'humilité et du respect et de l'amour de l'autre. Et là, le politique lui-même a besoin de vous, comme vous avez besoin du politique. L'un comme l'autre, vous conjuguez vos efforts. Parce que quand on sait ce que l'injustice apporte comme désordre dans le monde, il faut collaborer. Le religieux et le politique doivent collaborer. Parce que quand l'injustice s'installe, c'est une pré-violence qui est là. De tout peut sortir, tout ce qui est vilain sort de l'injustice. Donc le politique, quels que soient ses objectifs, il faut qu'il voit, qu'il visite le religieux, qui lui est en train de voir de comment faire du fidèle un soumis à la foi, un adorateur, et surtout celui qui respecte et qui aime l'autre.
Cela n'ouvre pas la porte aux politiques de profiter un peu plus?
Les politiques profitent.
Sur d'autres aspects.
Les politiques profitent, mais les politiques ont d'autres objectifs. Les politiques ont d'autres objectifs. Ils ont des programmes, bien sûr, mais à partir d'un certain moment donné, ils s'arrêtent. C'est le religieux qui prend le relais. Si vous voyez chaque fois qu'il faut faire l'équilibre, il faut négocier, il faut faire la paix, c'est qu'on n'avance pas. Depuis que les prophètes sont venus sur la terre, il n'y a qu'un seul thème, un seul, amour.
Alors, Monsieur Dembélé, politique et religion, ça rime?
Pour moi, il faut donner à la politique ses lettres de noblesse. Ça veut dire quoi? Fondamentalement, la politique, c'est se mettre au service des autres. C'est un service. Maintenant, s'il n'est pas perçu comme un service, s'il est perçu comme un pouvoir, alors on est en face des dérives. Et justement, la place, le lien entre la religion dans cette sphère, la politique organisée, c'est toujours de rappeler le bien commun, de rappeler le bien commun, préserver le bien commun et surtout attirer l'attention sur les plus pauvres. Les plus pauvres, c'est eux qui plaisent au cœur de Dieu. Et il faut toujours que la religion rappelle cela aux dirigeants, aux hommes politiques, pour qu'ils se rendent compte que s'ils ne font rien pour ces plus pauvres, qui sont ces malades, qui sont ces enfants, qui sont ces femmes, qui sont... Si vous ne le faites pas, dites-vous que vous êtes un dirigeant, mais vous n'êtes pas un dirigeant croyant. Parce qu'un dirigeant peut ne pas être croyant, c'est dommage. Mais un dirigeant croyant, il doit toujours se tourner vers son Dieu. Et pour qu'il se tourne vers son Dieu, ben c'est l'espace religieux qui peut le lui rappeler. Donc, ce lien-là qui peut rimer parfois avec la compromission, c'est vite fait. C'est vite fait parce que nous sommes des humains. Quand on dit leader religieux, il ne faut pas croire que leader religieux veut dire qu'on est Dieu. Dieu, il est un. Donc tous les restes sont des humains. Sont des humains qui essayent d'être le plus en conformité avec la loi de Dieu. Donc le risque est là. Le risque est là. Et justement, à l'intérieur de la religion, les religieux, les leaders religieux eux-mêmes doivent se rappeler entre eux, à la limite, c'est rappelé à l'ordre, si je peux utiliser le terme. C'est rappelé à l'ordre chaque fois qu'on n'est plus en train de défendre les plus pauvres. Parce que quand tu défends le plus pauvre, tu as déjà défendu le plus fort.
D'accord. Voilà. Je ne vais plus poser cette question à M. le ministre. Je crois que c'est clair là-dessus. Alors, M. le ministre, est-ce qu'il n'est pas souhaitable aujourd'hui, comme dans certains pays, que les religieux soient mis au devant de la scène, par exemple dans les négociations d'Alger, pour faciliter les choses?
Bien, je pense que... Mais en fait, c'est vrai, c'est une autre manière de poser la question, la frontière, hein, entre religion et choses politiques.
Politique,
hein. Je crois que les négociations d'Alger, les religions ont fait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils devraient faire, c'est des bénédictions, des prières dans les mosquées, les églises. Hein, je crois que c'est cela. Vous savez, la beauté de la religion, la force de nos leaders religieux, c'est cela. Ils doivent rester comme des sentinelles. Rester comme des sentinelles, veiller, parce que eux, ce qu'ils ont est plus puissant que le pouvoir, ils ont la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on ne la transforme pas pour soi, on ne la dit pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ils ont ça, et c'est une obligation pour eux de le dire. Allez-y annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle. C'est cela. Alors donc, dès qu'ils observent ce Rubicon, rester sentinelle, ils seront aiguillés ou aiguillonnés à chaque fois que la chose politique doit dévier, à chaque fois que la chose politique pousse à l'excès. Je vous ai rappelé, qui d'entre nous ne se rappelle pas de ces discours de Saint-Sylvestre pendant les présentations de vœux de Mgr Luc? C'était des moments. Voilà, c'était des moments. L'imam Balakale, c'était des moments. Alors donc, je pense que... Mais ce qu'il faut éviter, c'est de croire qu'en l'homme religieux, il n'y a pas le politique. Non. L'homme religieux a les devoirs d'orienter le choix de ses fidèles, de pouvoir éclairer ses fidèles par rapport à leur choix politique pour qu'il n'y ait pas d'erreur, afin que l'homme soit sauvé, c'est-à-dire que l'homme politique ne va pas s'asseoir. Je ne parle pas de politique, je m'assieds, alors, cher brebis, allez derrière n'importe quel berger. Non, il a ses devoirs d'orienter, parce que ça aussi, il sera interpellé par rapport à ça. Et donc, en fait, les négociations d'Alger, ça c'est l'État malien, le pouvoir politique, le pouvoir régalien, son accompagnement va obligatoirement nécessiter l'appui des religieux, ne serait-ce que vous l'avez vu dans ce dialogue interpersonnel qui s'est produit entre les représentants du gouvernement et la classe sociale, la société civile, évidemment. Et après aussi les accords d'Alger, évidemment, il va falloir faire ce travail d'acceptation, de pardonner à l'autre, d'acceptation de sauver l'État au détriment de l'ego et qui demandera des sacrifices. Voilà le rôle des leaders religieux. Comme aujourd'hui, ils sont en train de le faire dans la lutte contre l'Ebola. Transmettre le message de la propriété, c'est cela, hein, de la prudence. Et voilà.
D'accord, merci Monsieur le ministre. Sur ce, on va finir. Hein. Nous sommes donc au terme de ce débat qui portait sur la place de la religion dans le processus de paix. Nos invités, Eladj Sidi Konaké de l'AMIPU, Jean de Dieu Dambélé de l'Église catholique et le ministre du culte, Tcherno As Diallo, nous ont aidés à faire l'historique de la place de la religion au Mali, comment la religion peut contribuer à asseoir la paix et ce qu'elle peut proposer pour accélérer le processus de paix. Nous espérons que vous avez eu un intérêt pour ce numéro qui vous a été présenté par Sira Bachili, réalisé par Ousmane Djadje Touré et mis en onde par Nouhoum Djiré. Merci de nous avoir suivis. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.